L'histoire du roi Lavana. Un extrait du Yoga Vasistha. Tout est possible à l'ignorance. Ceux qui rêvent peuvent voir des cruches devenir des pièces d'étoffe. Ce qui est éloigné peut paraître proche, comme une montagne reflétée dans un miroir. Ce qui dure longtemps peut sembler s'écouler un instant, par exemple une nuit de sommeil paisible. L'impossible se produit dans les rêves, par exemple, le fait d'assister à sa propre mort. L'irréel devient réel, comme lorsqu'on rêve qu'on vole à travers le ciel. Ce qui est parfaitement stable, la terre par exemple, semble devenir instable dans l'illusion provoquée par le vertige. Ce qui est immobile paraît se mettre en mouvement, comme l'esprit excité par l'ivresse. L'esprit, lorsqu'il est submergé par ses propres désirs latents, les vasanas, ne tarde pas à percevoir à l'extérieur ce qu'il a créé mentalement. Ses créations mentales ne sont ni réelles ni irréelles. Dès que la naissance s'est manifestée dans l'esprit sous la forme de la distinction du moi et du toi, celui-ci est plongé dans un flot d'illusions qui n'a ni commencement, ni milieu, ni fin. Cette simple imagerie mentale suffit à mettre toute chose sans dessus-dessous. Alors, un instant, s'étire aux dimensions d'un éon, et un éon paraît ne durer qu'un instant. Un homme à l'esprit dérangé peut se prendre pour un bélier. Mais le bélier lui-même, lorsqu'il combat, mu par ses désirs, peut se croire un lion. Les activités sociales dans lesquelles les hommes déploient de grands efforts ne s'ajustent les unes aux autres que par l'effet du hasard. Car elles dérivent toutes des désirs latents, propres à chacun. De même que l'esprit peut très bien oublier une action, même importante, accomplie par lui, de même croit-il parfois, avec assurance, se souvenir d'actions qu'en réalité il n'a pas accomplies. On peut ainsi, sans avoir réellement mangé, croire qu'on a mangé. De même que des pensées et des expressions identiques peuvent germer dans l'esprit de différents poètes, de même lieu, de même, le lieu, le moment et le contenu de l'action peuvent être communs aux rêves de différentes personnes. Le cours ordinaire du monde existe sous la forme d'un reflet. Aucune chose en ce monde ne possède une existence qui soit séparée de la perception pure. Les choses paraissent seulement se distinguer de la non-perception, comme les vagues paraissent se détacher de la masse de l'eau, passée, présente ou future. Elles y sont en fait contenues, comme l'arbre dans la graine. C'est parce que toute chose participe de la réalité ultime, que même les rochers, etc., peuvent être réfléchis dans la conscience, grâce à un rapport de similitude. C'est parce que tous les objets composant l'univers ne sont, en dernière analyse, que la pure conscience absolue, qu'ils sont susceptibles d'être manifestés, en même temps que la conscience de soi. Des choses foncièrement différentes ne pourraient pas entretenir un rapport mutuel stable et, faute d'une telle relation, ne pourraient être perçues ensemble. Le semblable s'unit instantanément au semblable et une nature unique se déploie, car les deux sont essentiellement un. Il ne peut en aller autrement. Mais l'union de la conscience pure et d'une matière inerte ne peut jamais avoir lieu, à cause de l'hétérogénéité essentielle de ces deux natures. La conscience pure et la matière inerte ne peuvent jamais se retrouver réunies dans un même sujet. C'est parce que l'objet perçu est fondamentalement de même nature que la conscience qu'il peut s'associer à elle, et cette association, à son tour, rend possible la perception. Cette fusion entre des réalités essentiellement mentales est différente de l'association entre choses matérielles inertes qui se réalisent sur le mode d'une transformation physique. Ainsi, l'association du bois et de la pierre transforme-t-elle ces matériaux en une maison. Quant à la sensation gustative, par exemple, elle est rendue possible par l'homogénéité foncière du sentant et du sensible. C'est pourquoi on ne doit pas accorder l'existence réelle aux choses inertes, rochers, etc., etc. Leur perception n'est que la manifestation limitée de la conscience pure sous la forme du rocher, du mur, etc. De même que des cités fantastiques, issues de l'imagination de différents individus, peuvent très bien être projetées en un même moment et en un même lieu, de même l'expansion créatrice de la conscience pure n'est pas entravée par l'espace et le temps. C'est la fausse expérience de la différence qui fait naître les idées illusoires de création, d'ego, etc. De même que c'est la perte de la conscience de l'or comme substance homogène qui donne naissance aux représentations illusoires de bracelets. Dès que l'on abandonne la distinction de la vision et de la chose vue, l'ignorance ne peut plus subsister séparément. Si grandes soient-elles, les différences entre les colliers et les autres types de bijoux s'effacent dans l'unité de l'or pur. C'est ainsi que l'unicité de la conscience annule le phénomène de la création diversifiée. L'armée jouée n'est que de l'argile, les vagues ne sont que de l'eau. Les figures sculptées ne sont que du bois, les cruches et autres récipients ne sont que de l'argile. L'apparence d'un triple univers n'est que le brahman. Le sujet connaissance se tient entre le connaissable et l'opération même de la connaissance. Mais ce qui est au-delà de cette triade voyant, vision, vue, constitue la réalité suprême. Lorsque l'esprit va d'objet en objet, une certaine forme consciente se maintient immobile au milieu de ses activités. C'est à cette forme que tu dois t'identifier en toutes circonstances. En toi, quelque chose demeure en permanence, soustrait aux états de veille, de rêve et de sommeil profond. C'est à cette forme qui n'est à proprement parler ni mentale ni matérielle que tu dois t'identifier en toutes circonstances. Cette forme consciente ne prend jamais naissance et ne disparaît jamais pour qui que ce soit. Calme ou agité extérieurement, demeure intérieurement au repos et à l'aise. L'âme à l'intérieur du corps n'éprouve ni désir ni aversion. Demeure en repos et sans souci, ne succombe jamais à l'agitation désordonnée du corps. Tes facultés mentales, dont tu sais par ton expérience propre qu'elles ne sont pas véritablement choses pensantes, considère-les avec autant d'indifférence qu'un habitant d'un pays lointain, une bûche de bois ou un rocher. De même qu'il n'y a pas d'eau dans une pierre, pas de feu dans l'eau, il n'y a pas de faculté mentale dans le soi intérieur, à plus forte raison dans le soi suprême. Ne faisant l'objet d'aucune expérience authentique, les facultés mentales sont irréelles et donc leurs opérations sont irréelles aussi. Sachant cela, tu dois te situer au-delà du plan de l'esprit.